RMC, After Paris,
François Pinet.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 5 de l'After Paris, saison 2025-2026. Merci à toi qui nous écoute en podcast, merci à toi qui nous regarde sur After Foot Télé, sur toutes les télés connectées. Merci à toi également qui nous regarde sur YouTube. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer et remercier tous ceux qui nous laissent des petits commentaires sur YouTube. Vous nous les avez laissés sur les 4 premiers épisodes d'After Paris. After Paris, le podcast pour ceux qui ont salué la classe, évidemment, de Maxwell ou encore de Mikel Arteta. Et ce n'est pas anodin si je cite deux des joueurs qui sont passés par le PSG et le Barça, puisque c'est un épisode exceptionnel, consacré évidemment à ce Barça-PSG à venir en Ligue des Champions. On a sorti la grosse équipe pour ça avec Jimmy Brown. Salut Jimmy.
Salut François, bonjour à tous. Si je peux me permettre de citer et de saluer un autre joueur passé par le Barça-PSG qui est Ballon d'Or. Voilà, on félicite Ousmane Dembélé.
Exactement.
Toute la communauté parisienne se réjouit du trophée de Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé.
Fabrice Hawkins est là, salut Fabrice.
Salut à tous, je me joins à Jimmy pour saluer l'immense Ousmane Dembélé qui est désormais rentré dans le panthéon du football français.
Et puis on a la chance d'avoir la mémoire vivante du PSG sur ce plateau,
notre légende.
Julien Taxis est là.
Salut François, salut After Paris.
Ça faisait longtemps que j'étais pas venu.
Mais ça faisait depuis le mois de mars que j'étais pas venu. Entre temps, j'ai eu un troisième enfant et puis il y a eu la Ligue des Champions.
Donc
tu vois, comme quoi,
on peut mourir. Félicitations.
C'est lié peut-être, on ne sait pas.
Mais on ne dira pas c'était quoi la plus grande émotion. Est-ce que c'était la Ligue des Champions ou le troisième enfant?
Je sais que j'ai champion d'Europe après 3 mois quand même, le petit.
Bon, en tout cas, on est ravis de t'avoir avec nous pour ce After Paris exceptionnel, je le disais. Deuxième match de Ligue des Champions face au Barça mercredi prochain. Ce sera le 16e match entre les deux équipes. C'est tout simplement l'adversaire que le PSG a le plus affronté en Europe, ce Barça. Au point de se dire d'ailleurs, les amis, que c'est peut-être le meilleur ennemi du PSG. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Sur la scène continentale, oui. Alors peut-être les plus anciens, je vais faire l'ancien pendant tout l'épisode, parleront de la Juve, Jimmy, sur les années 80-90. Mais clairement, depuis 10 ans, depuis le début de l'ère QSI, je crois qu'on les a joués 3 fois avant, 12 fois depuis.
Oui, et puis même en dehors du terrain, le nombre d'histoires qu'il y a eu hors terrain,
les transferts, les coulisses,
pour Verratti, de Neymar, de là la rivalité jusqu'il y a quelques jours Dembélé et Yamal pour le Ballon d'Or. Oui, c'est une vraie rivalité maintenant à l'échelle européenne.
Et même au niveau des dirigeants, je souscris tout à fait à ce que dit Jimmy par rapport aux joueurs. Et c'est vrai que même au niveau des dirigeants, il y a eu pas mal d'accroches, d'anicroches. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de suivre ça.
Alors justement, on vous propose un épisode exceptionnel où il va falloir faire travailler votre mémoire, même ceux qui nous regardent et nous écoutent, parce qu'on va faire la tier list, c'est à la mode, des matchs PSG-Barça ou Barça-PSG en Coupe d'Europe. Alors, vous allez m'aider à ranger les matchs. Alors, on ne va pas faire les 15 matchs qui ont lieu, mais 8 de ces 15 matchs, dans 4 catégories. Match à oublier, soit parce que bon, le niveau est mauvais, ou soit parce qu'il vaut mieux l'oublier. Voilà, c'est très subjectif. Match mémorable, match qui est resté dans les mémoires, pas forcément dans l'histoire. Match immense, un match qui a laissé une trace, bien sûr, mais la catégorie la plus impressionnante, c'est match légendaire, un match qui a écrit la légende du foot. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, c'est même conseillé bien sûr pour cet épisode. N'hésitez pas vous aussi à ranger vos Barça-PSG, on attend vos commentaires. On va commencer par le plus récent, 2024, c'était donc il y a 2 saisons, le PSG qui élimine le Barça en quart de finale de Ligue des Champions. Petit souvenir, écoutez.
Mbappé va la lunette, Mbappé qui accélère, Mbappé qui frappe, oh, et le ballon attrapé par Ter Stegen, derrière Asensio, de et encore Ter Stegen, et Koundé, ça revient les pieds de Mbappé,
oui,
et
allez,
cette fois-ci,
oui,
c'est la bonne,
oui,
c'est la bonne, 4 buts à 1.
Yes. Yes, voilà, on va ranger dans notre tier list ce match retour remporté 4-1 par le PSG au stade de Mondruic. Déjà à l'époque, le Camp Nou était en rénovation. À l'aller, il y avait eu 3-2 au Parc en faveur du Barça. Et à Barcelone, le PSG s'impose dans un match à rebondissement puisqu'il y a effectivement le but assez tôt de Rafinha, l'exclusion d'Araujo et puis des buts signés Dembélé, Vitinha. Et donc le doublé de Mbappé. On le met dans quelle catégorie ? Jimmy, on va commencer par toi. Oublié, mémorable, immense, légendaire.
J'ai mis mémorable, je le cataloguerai pas d'immense pour une simple et bonne raison, c'est que je me souviens très bien qu'au moment, déjà il y a l'exclusion d'Araujo qui est assez précoce dans le match, qui fait que le match change, et surtout derrière le choix qui reste pour moi aujourd'hui incompréhensible de Xavi de sortir à Lamine Yamal, où tu sais que c'est la menace numéro 1, et à partir du moment où Lamine Yamal sort, moi je suis devant le match, Et je sais pas, tu as l'impression que tu as un sentiment sortir, d'inéluctable et tu te dis, bah, ils y arriveront pas en fait. Alors évidemment, le PSG, et c'est un PSG des très grands soirs, et surtout que tu perds le match aller au Parc des Princes, donc tu es en difficulté. Tu te dis encore une fois, tu retournes à Barcelone, et cette fois avec public, parce que 2021, on y reviendra tout à l'heure, c'était le Covid, donc il y a encore un traumatisme de retourner à Barcelone après la remontada dont on va parler aussi. Et ça te lance aussi, t'es en quart de finale si je dis pas de bêtises, ouais. Donc oui. ça t'envoie quand même dans le dernier carré de la Ligue des Champions, donc pour toutes ces raisons.
Dortmund en plus.
Ouais, j'aurais pu dire immense, mais je trouve mémorable seulement ce qui est déjà beau.
Par rapport aux autres aussi.
Par rapport aux autres, oui, je le mets en dessous d'autres, parce que par rapport à cette exclusion et surtout moi ce changement de Jamal que j'avais pas compris.
Moi je le trouve assez immense celui-là, parce que alors certes il y a déjà eu 2021 avant, mais comme l'a dit Jimmy, période Covid, et puis c'est vrai que le PSG fait quasiment tout au match aller, même si le match retour est très compliqué, Navas sort un match exceptionnel. Celui-là, il y a aussi une petite remontada. Faut quand même se souvenir qu'après le but de Rafinha au match retour, le PSG a deux buts de retard. Voilà, pour ceux qui veulent solder les comptes, certains considèrent qu'ils ne seront jamais soldés avec le Barça. Bah là, tu fais une petite remontada, t'es mené de deux buts, tu t'imposes finalement 4-1, et puis il porte déjà aussi un petit peu la marque de Luis Enrique. Je me souviens que dans le film que RMC Sport avait produit juste après cette victoire-là, on expliquait tout le plan, notamment autour d'Arojo, demander aux joueurs d'aller presser Arojo, et c'est ça qui fait basculer le match, le carton rouge, et derrière le match n'est plus le même, avec effectivement la sortie de Yamal. Moi, il m'a provoqué des émotions, j'aime bien les scénarios, les matchs à rebondissement, et là il y en a vraiment.
Et toi, tu es plutôt du côté immense, mémorable?
Moi, j'avais mis immense, mais on est presque entre immense et légendaire. Pour deuxième partie de l'explication de Julien, je me souviens du discours effectivement très fort de Luis Enrique. Il les a vraiment mentalisés, préparés, que ce soit Kylian Mbappé, à qui il avait dit plus ou moins comment ça allait se passer.
Je trouve que l'entre-deux matchs avait été parfaitement géré par Luis Enrique.
Exactement, mais ça c'est le cas depuis qu'il est arrivé. On peut d'ailleurs le retrouver dans...
Excellent livre.
C'est un gimmick. De
l'enfer au paradis, c'est un excellent livre que vous pouvez vous procurer chez tous les bons libraires.
Quand Jimmy m'a regardé, je sentais qu'il voulait que je le dise.
De l'enfer au paradis, mais c'est un très bon livre.
Je pense que les gens qui nous écoutent, ça va.
Plus sérieusement, dans la préparation du match, je l'avais vraiment trouvé très bon, et justement avant le match, après le match, dans son discours auprès de ses défenseurs, auprès notamment de ses attaquants aussi, en leur disant de bien presser à Roro comme tu l'as dit, et aussi pour le scénario, voilà, ils étaient en difficulté, ils réussissent à marquer 3 buts de plus, c'était pas gagné, même s'ils sont en supériorité numérique. Je trouve que pour toutes ces raisons, ça reste quand même
C'est qui m'a presque convaincu, parce que j'avais oublié effectivement la séquence d'entre-deux de Luis Enrique que tu revois dans le documentaire derrière, notamment la fameuse causerie avec Kylian, où il lui dit voilà, Michael Jordan, pour gagner il faut défendre, tout ça
catastrophique.
Tu comprends beaucoup de choses de Luis Enrique à travers cet entre-deux matchs qui est, ouais, ça rend quand même, si tu remets en perspective, c'est quand même pas mal. Ouais,
on voulait commencer par ce dernier rendez-vous, hein, contre le Barça. On va revenir vraiment en arrière avec du plus récent au plus ancien. Le premier PSG-Barça de l'histoire, c'était en 95. Quel âge tu avais, Fabrice?
Non, arrête, j'étais né, abusez pas. Je gérais déjà la télécommande à la maison.
Il était déjà avec son téléphone. Et il y a 30 ans, le PSG est en quart de finale de Ligue des Champions. À l'aller, avec le Barça, il y avait eu un partout. C'est Ouya qui avait répondu à Korneïev. Il m'avait échappé, lui, ce joueur-là du Barça. Au retour, le PSG se qualifie pour les demi-finales en s'imposant 2-1. C'est ce match que l'on va ranger dans notre tier list grâce à Rai et Vincent Guérin, buteur à 7 minutes de la fin. On le renjoue, donc, ce PSG-Barça 95.
Tout simplement légendaire. Je pense qu'il n'y a pas de débat autour de ça. C'est le Barça de Johan Cruyff. C'était l'époque où le Paris Saint-Germain progressait quasiment tous les ans, faisait des premières demi-finales, en l'occurrence de Ligue des Champions à l'époque. Une équipe extraordinaire. Et puis, il y a le but de Vincent Guérin. Moi, j'étais au Parc des Princes, donc j'en garde un souvenir extraordinaire. C'est top 5 des matchs que j'ai vus au Parc des Princes. Il y a le commentaire, pour ceux qui s'en souviennent et qui l'ont vu à la télé, de Jean-Michel Larquet, capitaine Larquet. Il est né derrière le parc, il est né derrière la tribune, exceptionnel. Et puis, c'était aussi, pas encore l'aboutissement, mais on était en pleine période dorée Canal, et à cette époque-là, Georges Weah et Ballon d'Or quelques mois plus tard, on avait une équipe exceptionnelle. Le Barça, c'était peut-être pas le meilleur Barça de l'histoire, mais c'était quand même le Barça de Johan Cruyff.
C'était le Barça qui sort d'une finale de Ligue des Champions l'année d'avant. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer, de parler de ce match-là. On avait fait un papier pour la revue de l'After avec Luis Fernandez, qui me racontait à quel point Johan Cruyff, c'était son idole, et à quel point il était obsédé par cette double confrontation et qu'il ne voulait pas décevoir son maître, en fait. Et quand tu vois, on parle aujourd'hui beaucoup des innovations tactiques de Luis Enrique, etc. Mais il faut remettre quand même en perspective. Là, on a pour ceux qui nous regardent sur YouTube, on a l'image de la composition d'équipe.
Que
tu as
gens,
un milieu de terrain citer, hein. Avec
Lama,
Vincent
Guerin et Le Guen Coleta en défense, Guerin, Valdo, Bravo.
Tu joues milieu de terrain des Guerin, Valdo, Rai. Bravo, Rai, Ginola, Weah.
Je pense que c'est la plus belle équipe de cette époque-là.
C'est monstrueux.
Ginola s'en va, tu es champion d'Europe en 97 sans ces joueurs-là, à part Rai, enfin devant. C'est la quintessence du PSG Canal+. Ouais.
T'as trois meneurs de jeu, enfin, je veux dire, c'est une équipe extraordinaire. Et le but de Guerin, il est magnifique. Enfin, je veux
même
dire,
si
aussi...
la frappe est très, très lente, mais tellement
oui,
bien
mais
placée.
T'as
c'est incroyable. En plus, il s'était blessé à l'épaule dans l'histoire, dans le match avant. On ne sait pas s'il va pouvoir reprendre. Et puis
et de mémoire, le PSG fait un match 3 ou 4 fois sur les montants avant d'égaliser.
Et puis tu as le scénario de fou aussi où tu es mené, tu es éliminé. Et puis, et moi, Luis m'avait dit à aucun moment on panique en fait. Parce qu'on sait, on était rodé, on savait qu'il fallait jouer au sol, fallait dédoubler, etc. Et que ça allait finir par passer. Et c'est ce qui arrive et c'est ce qui te propulse, moi je trouve. Et Julien le disait, tu avais eu le PSG Real en Coupe de l'UEFA avant. Mais. Voilà, c'est ta première demi-finale de Ligue des Champions que tu arrives à atteindre, malheureusement, qui se termine mal derrière face au Milan. Mais oui, ce match-là, il fait partie de la légende du PSG, incontestablement.
Voilà, donc légendaire, on est tous d'accord, même toi Fabrice, même si tu l'as pas
oui,
vu
oui,
en direct.
Oui, non mais légendaire en tout cas, parce que même moi, qui c'est vrai, j'avais 3 ans à l'époque à peine, il y a quand même des joueurs que je connais, dont j'ai beaucoup entendu parler des deux côtés, notamment du côté parisien. Donc j'écoute religieusement ce qu'on dit mes deux camarades et je souscris.
Et justement, 2 ans plus tard, 97, on retrouve quelques-uns de ces héros pour la finale de la Coupe des Coupes. Alors, c'est le seul match hors Ligue des Champions entre le Barça et le PSG.
On peut faire des matchs où j'avais plus de 10 ans ou...
Ça va venir ça après, arrive. T'inquiète pas. Défaite 1-0 du PSG face au Barça. Le Barça d'un certain Ronaldo qui est d'ailleurs buteur sur pénalty. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce match? On le met dans à oublier, mémorable, immense ou légendaire?
À oublier pour moi. À oublier. J'étais gamin.
Il n'était pas terrible ce match en plus.
Et j'ai pleuré à la fin du match. J'étais malheureux.
Même en termes de jeu, c'était pas exceptionnel.
Non. C'était finale fermée.
T'as le poteau de Loco, je crois. C'est la seule véritable grosse occasion et gros frisson du match.
Grosse équipe du Barça.
Le truc qui n'est pas oublié, c'est le beau maillot quand même qu'avait le PSG, maillot extérieur.
Il est incroyable
aussi. Ouais. Mais non, malheureusement, ce match-là, énorme Barça. Hein. Au-delà de Ronaldo, c'est.
Il y a Figo,
Luis Enrique.
Et à l'inverse, le PSG, là, ça commence. Tu as perdu plusieurs éléments importants par rapport à 2 ans.
Tu joues avec Koé, avec Leroy par exemple, Leonardo quand dans cette équipe.
Là on est sur la fin d'une ère aussi pour le PSG, hein, parce qu'avant de rejouer, alors non seulement une finale, mais même une demi ou un quart de finale de Coupe d'Europe, il y a de l'eau qui sera qui aura coulé sous les ponts. Quoi. Non, à oublier, ouais.
Ok, on est tous d'accord. Il faut attendre 16 ans ensuite pour revoir donc, une nouvelle confrontation PSG-Barcelone. C'est en 2013, quart de finale de Ligue des Champions, la quart de finale retour après le 2-2 à l'aller au Parc. Les Parisiens qui font un gros match, c'est Ancelotti qui est sur le banc. On se souvient du but de Pastore. Et écoutez ensuite ce qui se passe.
Pastore, il faut la mettre, Javier, il faut la mettre, et il la met. Le PSG qui est peut-être en train d'écrire son histoire au Camp Nou. Le PSG mène 1-0.
Je crois que les joueurs, ce qu'ils ont démontré, c'est quelque chose d'énorme.
Et voici l'entrée de Léo Messi. Et là, on va voir si il va tout changer. Petit ballon dans la profondeur justement de Messi. Attention derrière, la frappe et l'égalisation. C'est terrible, l'égalisation du Barça. Tout est parti de Messi. C'est fini, élimination du Paris Saint-Germain. Le coup passe.
Voilà, tout résumé, le coup est passé si près, à oublier, mémorable, immense ou légendaire. Dans quelle catégorie on place dans notre tier list ce Barcelone-PSG 2013?
Moi, mémorable, mais vraiment au sens premier du terme. C'est-à-dire que ça fait vraiment partie des Barça-PSG dont je me souviens parce que c'est le début de l'ère Qatari. C'est ta première campagne où tu passes les poules, enfin la première campagne de Ligue des Champions, ère Qatari, avec Ancelotti. Tu fais un match très correct face à un immense Barça parce que voilà, il est 2013, t'es calé entre tous les titres 2009, 2011, 2015. Et puis, il y a ce match retour au Camp Nou où Javier Pastore laisse penser que le PSG, pour sa première son retour en Ligue des Champions, va aller encore plus loin. Et puis je vais laisser Jimmy le raconter parce que c'est vrai que derrière il y a l'entrée de Léo Messi.
T'étais
au Camp Nou et c'est lui qui change tout.
J'étais au stade et j'ai vécu quelque chose que j'ai plus jamais revécu dans un stade. C'est-à-dire qu'au moment où Messi va s'échauffer ce soir-là, c'est même pas au moment où il rentre sur le terrain, c'est au moment où il se lève pour s'échauffer. Tu as l'impression, et le Camp Nou, quand c'est, enfin on l'a connu là, Covid, etc. Mais le Camp Nou avec 100 000 personnes. c'est pas là où t'as la plus grosse ambiance, mais t'as une espèce de ferveur qui monte comme ça du stade. Et t'avais l'impression que voilà, le match était perdu au moment même où il allait s'échauffer, même avant même de rentrer. Et puis finalement, c'était inéluctable, c'est lui qui fait la différence.
Il y a une espèce de suspense autour de la présence de Messi. Il va jouer. Et ça, sur les entre-deux matchs, ils sont bons. Hein. C'est pour ça que je parlais de l'entre-deux matchs il y a deux ans avec Luis Enrique. On a appris aussi.
Il y a une espèce de magnétisme quand il rentre. Ouais. C'est vrai, moi j'ai suivi le match évidemment depuis ma télé. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de magnétisme et on sent qu'il va se passer quelque chose. Je sais pas si c'est le sentiment qui prédominait. Et il arrive, c'est là où il est magique aussi, c'est qu'il arrive à créer ce moment-là alors même qu'on le sentait venir. Et le Paris Saint-Germain aussi, je me souviens d'une très belle équipe, notamment au milieu de terrain avec Thiago Motta, ça jouait quand même très très bien et c'était une vraie opposition de style entre deux équipes qui jouaient bien et aucune des deux n'a réussi à gagner finalement.
Le but est magnifique, celui de Zlatan, pour
Pastore. Moi,
Pastore, de toute façon, il a marqué que des buts qui étaient magnifiques mais qui n'ont
pas servi à rien. C'est vrai qu'on parle souvent celui de Chelsea, mais il y a celui-là aussi.
Celui-là est très beau. Et t'avais aussi, je me souviens juste pour terminer, de Beckham qui rentre en fin de match, quand on remplace Verratti. Et tu vois, il s'est passé 6 mois au PSG, Beckham, mais il rentre, il est dégoûté à la fin du match. J'ai encore des images, il met sa tête dans le maillot, etc. Enfin, tu sens que c'était déjà une équipe. Moi, je pense qu'ils sont passés à côté de quelque chose, cette génération-là, parce qu'ils l'avaient, en fait. Ce milieu de terrain, Verratti, Matuidi qui loupe le match sur suspension, qui marque à l'aller, je crois, en toute fin de match, c'est lui qui égalise de mémoire. Verratti, qui est, je sais pas, il a quel âge à ce moment-là, il est tout jeune, mais il fait un match au Camp Nou, il arrive au Camp Nou, il est chez lui, c'était exceptionnel.
Donc et mémorable, t'es presque pas loin de dire immense.
Parce que finalement, l'issue, tu as 1-0, un partout, tu sors sur le but à l'extérieur, et voilà. Okay. J'aurais bien aimé que la règle ait changé à l'époque, on ait vécu une prolongation de l'époque.
J'aurais bien aimé éliminer sans perdre
sur ce Barça là quand même.
Bon, vous l'avez compris, il y a d'autres matchs dont on va parler dans un instant. Vous restez avec nous, l'After Paris continue et vous savez de quel match on va parler. Alors restez connectés. À tout de suite. L'After Paris qui continue en podcast, vous le savez aussi à la télé sur After Télé et puis bien sûr sur YouTube. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à vous abonner aussi pour ne pas rater les épisodes. Jimmy Brown, Julien Taxis, Fabrice Hawkins pour jouer au jeu de la tier list PSG Barça avant le Barça PSG de mercredi prochain en Ligue des Champions. On en a fait déjà quelques-uns. On va revenir sur 2017.
Oulala.
On va être obligé de parler des deux matchs, à l'aller et au retour. On va commencer par l'aller. Huitième de finale, victoire 4-0 du PSG entraîné par Unai Emery. Des buts de Draxler, Cavani, doublé de Di Maria. Beaucoup ont parlé de chef-d'œuvre. Coup de sifflet final. À oublier, mémorable, immense, légendaire. Toi, tu as envie de le mettre où?
Il est immense parce que c'est un match, mine de rien, qu'on le veuille ou non, et eu égard à ce qui va se passer par la suite, on en garde, quand on est supporter parisien, peut-être un goût amer, mais quand on prend un petit peu de recul, c'est quand même un match qui était énormissime. Il y a des joueurs qui se sont révélés. Alors, vous me direz peut-être que le Barça, individuellement, ils n'ont pas fait une performance exceptionnelle et beaucoup étaient en dessous ce soir-là. Mais je pense notamment au match de Presnel Kimpembe. Moi, c'est lui souvent qui me vient en tête quand je pense à ce match-là. Il a anesthésié totalement Lionel Messi sur 90 minutes. C'était incroyable. Blaise Matuidi, ils ont fait tous individuellement, ils étaient au niveau. Ils ont permis ce soir-là au Paris Saint-Germain de briller et surtout ils ont donné beaucoup d'espoir. C'est de là où va venir la déception, parce que à la fin de ce match, au coup de sifflet final, on se dit mais il y a aucun monde où ils vont sortir.
Statistiquement, ça n'avait jamais été fait. Moi, là, c'est
si on reste sur ce match.
Honnêtement,
c'est difficile évidemment de voir ce match sans penser.
Je devrais pas, mais là, c'est le cœur du supporter qui va parler. J'étais au parc, j'ai vécu effectivement de manière pragmatique l'une des plus belles soirées. Et d'un point de vue footballistique, effectivement, le grand Barça, le PSG lui roule dessus. Il faut quand même se rappeler qu'il y avait plus Ibra que devant, c'est Cavani, Draxler et Di Maria.
Oui, c'est cette période où il y a plus Ibra,
un petit peu charnière, mais eu égard à ce qu'il se passe derrière, c'est comme si tu offres le plus beau cadeau que ton gamin puisse imaginer, tu lui enlèves 3 semaines plus tard. Eu égard aussi à la gestion de l'entre-deux-match, moi j'ai du mal à ne pas. C'est de l'omission. En fait, c'est. Enfin, comment te dire,
toi, tu veux l'oublier.
Je ne peux pas faire autrement que de l'oublier, vu la déception et ce qui se passe derrière, qui est complètement vertigineux pour moi.
Non, moi, pour moi, c'est immense. Pour moi, c'est immense parce que c'est top 3. Encore aujourd'hui, et il y a eu victoire en Ligue des Champions.
Avec la finale contre
Et moi, j'ai eu la chance d'être à Munich. Évidemment, maintenant, Munich, ça dépasse tout pour
un
supporter
du PSG. Mais t'es pas tout, tu n'es pas.
Mais écoute, j'ai beaucoup sacrifié pour ce club. Et ce match-là, moi, c'était incroyable. Quand tu vois, parce que t'arrives, c'est pas... Attention, en face, c'est Messi, Neymar, Suarez sur le terrain. Moi, pour moi, il y a Unai Emery cette année-là. ça sera, t'as une vraie analogie à faire avec ce que fait Luis Enrique aujourd'hui. C'est-à-dire que t'avais pas de star. C'était post-Ibra, c'était avant les craquages Mbappé-Neymar. Enfin, les craquages, moi je les considère pas comme tels, mais il y a eu avant le traumatisme et tout ce qui a suivi la remontada. Et t'avais une volonté en fait de construire une équipe, un vrai collectif. Et cette équipe-là, tu les vois courir, mais comme des damnés. Di Maria, Draxler ce soir-là. Tu parlais de Kimpembe, Fabrice.
Draxler fait son meilleur match avec le PSG.
Draxler, fabuleux.
Il est tout jeune, hein, il remplace Thiago Silva qui est blessé. Il a 19 ans, il met Messi dans sa poche.
Kimpembe, c'était extraordinaire. Kimpembe, c'était extraordinaire. Moi, j'ai encore la passe de Meunier pour Cavani quand il va mettre quelqu'un de terrain. C'est fini. Je te dis, c'est pas possible en fait. T'es dans une autre dimension. Je suis sorti de là. J'avais rarement été aussi euphorique dans une sortie de parc. Et évidemment. Ce qui arrive derrière est d'autant plus douloureux et d'autant plus traumatisant.
Alors, en tout cas, c'est bien de te voir encore sourire à l'évocation de ce match. C'est ça qui est bien. C'est pour ça qu'on fait aussi cet épisode.
Pour moi, c'est le chef-d'œuvre d'Unai Emery. Et on va parler de la remontada.
Justement, on y va. Et juste avant, alors, je suis désolé, on va se faire un petit peu mal au cœur et aux oreilles. C'était donc le fameux 6-1, match retour au Camp Nou.
Neymar, attention, qui fait une feinte de frappe, qui va se mettre sur son pied gauche, qui va centrer pour Sergio Roberto. Le but, c'est terrible. Le but du Barça, le but du 6-1, du 6-1, le Camp Nou qui explose, le Paris Saint-Germain qui est au sol, c'est un cauchemar.
Ah, c'est un cauchemar.
Comment on a pu envoyer un guignard comme Georges Ferrero pour
commencer ce match? D'ailleurs, maintenant, il ne fait plus les matchs du PSG.
Tout s'est clair, 8 ans après. Comment on a pu envoyer lui? C'est incroyable.
On embrasse Georges Quirino, bien sûr.
C'est incroyable.
Légendaire, malgré tout.
Forcément.
Oui, parce que les mots ont un sens. Il y en a très peu, des matchs comme ça. Encore une fois, statistiquement, ça n'avait jamais été fait. Victoire 4-0, élimination derrière. Ça n'a jamais été refait depuis. Et puis, encore une fois, qu'on soit supporter ou non du Paris Saint-Germain, il y a un côté vertigineux. Quand tu regardes ce match-là, ce qui se passe entre le troisième but, le quatrième but, pardon, du Barça et le sixième, il y a une sensation véritablement de vertige. Moi, que j'ai ressenti, la comparaison est peut-être pas bonne, mais la même sensation devant le Allemagne-Brésil 2014, demi-finale de Coupe du Monde, où il y a quelque chose qui se passe de vertigineux, de malaisant, que tu sois supporter ou non, il se passe quelque chose d'irréel, une faille spatio-temporelle. C'est en ça qu'il est légendaire.
Mais tu vois, je trouve c'est intéressant la comparaison que tu fais, parce que sur le match Brésil-Allemagne, j'avais l'impression vraiment que le Brésil était largement en dessous, même individuellement, et qu'il pouvait absolument rien faire. Alors que là, par rapport à ce qui s'est passé à l'aller, tu te dis, mais comment, une semaine après, quelques jours après, comment est-ce que c'est possible?
C'est pas une semaine, malheureusement, c'était trois semaines.
Beaucoup trop long, ça. Et puis il y a eu une pizzeria.
La pizzeria, très bien, tout ça.
Oui, bien sûr, il y a eu chambrage.
Mais de toute façon, etc. Mais tu te dis comment est-ce que c'est possible? Le match est c'est terminé. Quand il y a 3, normalement, le match est coffré, c'est terminé.
T'as pas senti que le Barça les surclassait de la première à la dernière minute?
Non, c'est pas un immense Barça. Neymar est injouable ce jour-là.
Neymar, c'est
au risque de faire le meilleur joueur du match. Enfin, je veux dire, il y a eu quand même beaucoup d'angles qui ont coulé après ce match. Notamment, il y a eu des faits de jeu quand même sur ce match particulier. Et je me rappelle, c'est pour ça que je voulais en parler juste avant, d'Unai Emery que Daniel avait rencontré dans Transversal et qui dit, et ces paroles-là ont résonné l'année dernière quand Paris a gagné avec des champions, il dit à un moment donné ces détails-là seront en faveur du PSG, ces coups de sifflet-là, ces rebonds favorables, il y a eu sur ce match quand même une multitude d'éléments défavorables au PSG qui ont amené à ça, et légendaire juste pour finir, toutes les conséquences qui vont arriver derrière en fait. Ouais. C'est un match bascule dans l'histoire de QSI au PSG.
Et pour le Barça aussi.
C'est le début des problèmes du Barça. Ouais. Et pour le PSG, si tu n'as pas ce match-là, moi je suis pas sûr que quelques mois plus tard tu vois Neymar et Mbappé arriver au PSG.
Mais c'est quasiment sûr. Neymar n'a pas apprécié de ne pas prendre la lumière après ce match-là, puisque le lendemain, en une de la presse espagnole de Deportivo, c'est Messi. C'est pas Messi.
Et à l'inverse, Nasser ça a changé l'histoire du foot.
Et puis les matchs qui ont suivi, il y a une forme de fébrilité aussi qui était à chaque fois collée à la peau du Paris Saint-Germain en pensant à cette remontada.
Alors il y avait eu 2015, on aurait pu en parler, mais on va finir quand même sur une bonne note. 2015, c'était en quart de finale, il y a eu cette défaite 3-1 au Parc des Princes.
À oublier.
Face au Barça MSN. Hein,
Oui, mais avec une demi-équipe du PSG ce soir-là. Une demi-équipe de titulaires.
Qui marque d'ailleurs chacun un but. Hein,
ouais, mais c'était le syndrome cette année-là des blessés, de jamais avoir tout son effectif au bon moment.
Le Barça était trop fort.
Et je voulais donc terminer par une victoire parisienne. 4-1 en 2021. Alors certes, c'est dans un Camp Nou vide, époque Covid. 8e de finale aller de Ligue des Champions. Et un homme brille plus que les autres. Écoutez.
Ils sont à 3 contre 2. Draxler qui accélère avec Icardi sur sa droite. Il va la donner sur Mbappé. Et le 3 Et de 3 pour Kylian Mbappé. Le ballon intérieur, pied droit enroulé. 4-1 pour le Paris Saint-Germain.
Voilà, auteur d'un triplé, Kylian Mbappé, forcément, cette équipe de Pochettino qui met donc un 4-1 au Barça. à oublier, mémorable, immense, légendaire. Dans quelle catégorie vous le rangez pour finir ?
Moi, je vais faire court, mais je l'avais mis dans immense et finalement mémorable, seulement parce que Camp Nou vide, effectivement, prestation XXL de Kylian à l'aller. Le match retour, encore une fois, est très très compliqué, mais ça manque de rebondissement, de scénario. C'est une immense performance,
c'est un peu plat,
Kylian Mbappé, c'est un peu plat.
Et puis c'est pas le grand Barça, c'est un Barça qui est vraiment en déclin.
Ouais, où t'as quand même Griezmann, Messi devant.
C'est un Barça qui.
Oui, c'est pas le grand Barça.
Coman sur le banc.
Mais moi, je mets immense parce que immense performance de Kylian Mbappé ce soir-là et parce que ça lance quand même une aventure européenne. C'est huitièmes de finale aller. Derrière, tu vas faire le Bayern en quart. C'est le début d'une très belle aventure. Pochettino, il restera pas dans l'histoire du PSG en tant qu'entraîneur, mais sur cette saison de Ligue des Champions, il a quand même.
Une campagne qui repose beaucoup pour moi sur Kylian et sur Navas, hein, parce que que ce soit Barça et Bayern, les deux sont très pondérants.
Il y a Neymar sur le Bayern qui avait été énorme là-bas sur la neige, ce match-là quand même. Et puis, c'est le match d'après contre le Barça, en fait. C'est la première fois que tu les retrouves sur un match à élimination directe. Et rien que pour ça, il y avait quand même un espèce de soulagement pour tous les supporters du PSG au sortir de ce match, je pense.
Bon, vous avez été parfait. On verra dans quelle catégorie on place le Barça-PSG à venir. Hein, on en reparlera dans
phase de ligue,
l'épisode 6 d'After Paris.
Immense.
Légendaire, ce sera bien, déjà légendaire.
Duel entre
Lamine
Yamal
et
Ousmane ne sera pas là, Ousmane Dembélé, Désiré Doué.
C'est le quart ou la demi-finale qui sera immense, espère.
En tout cas, on en reparlera la semaine prochaine. After Paris exceptionnel pour revenir évidemment sur ce Barça-PSG avec vous, messieurs. Merci Jimmy, merci Julien, merci Fabrice.
Salut,
à très bientôt dans After Paris. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire aussi. Et une note, c'est très précieux pour nous. Merci beaucoup de nous avoir écoutés ou regardés. À très bientôt. Ciao.
Ciao.
RMC After Paris.